affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
De Canal Academy, merci de votre fidélité. L'histoire est souvent cruelle, elle suit son cours et puis c'est tout. Ainsi, elle refuse souvent des destins à ceux qui les recherchent et projette sur le devant de la scène d'autres qui n'avaient absolument rien demandé et qui n'avaient absolument pas été préparés pour cela. Tel est le cas de Laetitia Bonaparte, que nous allons évoquer en compagnie de Patrick de Carolis, qui vient de lui consacrer un très joli roman historique. Patrick de Carolis, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, je voudrais vous demander comment vous est venue cette idée de consacrer un livre à Laetitia Bonaparte. Les livres sur l'empereur ne manquent pas. Et il est vrai qu'on s'est assez peu penché sur Joséphine non plus, ne manque pas. On s'est assez peu penché sur le destin de sa maman.
Mais écoutez, tout simplement parce que au-delà de l'intérêt que je trouve à écrire sur des destins de femmes, ça a été le cas dans mes précédents romans, j'ai eu l'occasion d'approcher à travers l'exposition qui a été présentée au public à Marmottan-Monet concernant les trois sœurs de Napoléon. J'ai eu l'occasion de constater qu'il manquait la quatrième femme de la famille. Et cette femme, c'était la mère. Effectivement, nous avons au musée Marmottan-Monet, il y a 3 ans, présenté une très très belle exposition sur les trois sœurs, Elisa, Pauline et Caroline. Et nous avons au musée Marmottan, que je dirige à présent, le buste de Laetitia. Et j'ai trouvé que...
Le buste lui-même est inspirant.
Et le buste lui-même est très beau. Alors, il est, comme tous ces bustes de l'époque, un peu sévère, un peu austère. Oui, alors j'ai voulu m'intéresser à ce personnage qui, finalement, n'est pas si austère que ça, n'est pas si sévère. Et j'ai découvert, en me penchant sur le parcours de cette femme étonnante, une jeune fille, d'abord, extrêmement vive, belle, contrairement un peu à son buste, parce que ses bustes sont faits à un certain âge. Et cette jeune fille a eu une enfance très, très heureuse, très joyeuse, très pétillante. Et voilà, j'ai voulu raconter le destin de cette jeune fille qui allait vivre longtemps, puisqu'elle décède à l'âge de 86 ans, à peu près. Et ayant été, comme elle se décrit elle-même, la mère de toutes les douleurs. Un jour, on lui dit, alors qu'elle est déjà mère d'empereur, de l'empereur, on lui dit, mais vous devez être la mère la plus heureuse de l'univers. Et elle réfléchit et elle répond, non, je suis la mère de toutes les douleurs. Et je suis parti là-dessus, en disant, pourquoi cette femme qui a vécu sous les ors de l'Empire, qui a vécu certes beaucoup d'années en exil, pourquoi dit-elle qu'elle est la mère de toutes les douleurs? Voilà. Et ça a donné ce roman. Je précise que c'est un roman historique, que je ne suis pas historien, même si ce roman est extrêmement, précautionneux vis-à-vis de l'histoire et respectueux vis-à-vis de l'histoire.
Et vous signalez d'ailleurs, il y a un grand nombre de citations qui sont des sources identifiées que vous signalez par des astérisques.
Voilà, parce que j'ai voulu me pencher sur les mémoires qui sont assez courtes de Laetitia et puis sur tout le travail qui avait été fait soit par d'autres personnes de contemporaines de Laetitia, soit par les historiens et de grands historiens.
Alors revenons aux sources. Lorsque Laetitia naît, en Corse, bien évidemment. Mm-hmm. Quel est son milieu familial? Où évolue-t-elle? Comment toute cette histoire démarre-t-elle?
Elle est d'une bonne famille. Elle est d'une famille aisée, c'est pas une grande richesse, mais enfin, on a des biens, on a des grands-parents. Enfin, on a une grande famille qui s'aide, qui s'entraide. Et elle va avoir une jeunesse très, très, très agréable. Vous savez, on dit à un moment donné, c'est une jeune fille qui a énormément d'énergie, qui monte à cheval, qui est érudite. Elle a une érudition assez intéressante pour son époque. Et les vicaires d'Ajaccio disent qu'elle est tellement belle que sa beauté engendre plus de vocation que les saints de l'Église. Vous voyez, elle est remarquée déjà comme jeune fille. C'est un bon parti. Elle va épouser un homme qui est plutôt bel homme aussi, avec Carlo. C'est un homme qui a de l'entregent, qui parle français, qui va faire une carrière de droit, qui va faire ses études à Gênes, qui sera volage.
Un peu véléitaire et volage.
Voilà, qui sera volage. Mais enfin, c'est un bon parti. Il est d'une petite noblesse. Il fera reconnaître d'ailleurs un peu plus tard ses quartiers de noblesse. Voilà, c'est la famille Bonaparte est une famille qui, en plus, elle aussi a des oncles, des parrains. On vit en famille.
Ça encore, ça ne doit pas être la seule à avoir.
Voilà, exactement. On vit en famille et on n'a pas d'autre ambition que de faire des affaires locales, peut-être avec le continent, surtout le continent italien, puisque à ce moment-là, la Corse est génoise, elle est italienne. Voilà, on est bien dans le sens où ces familles sont aisées, sans trop. Reçoivent une éducation tout à fait convenable pour l'époque.
Il doit avoir un certain sens de la dignité également. Enfin, peut-être est-ce un trait de caractère insulaire. Vous lui faites dire, malgré la richesse et les honneurs que mon... Je n'oublierai jamais, malgré la richesse et les honneurs, que mon sigle se limite à trois lettres. LRB, Laetitia Ramolino Bonaparte.
Oui, parce que c'est une femme... D'abord, c'est une femme... déracinée. C'est une femme qui va vivre 20 ans en exil à Rome, mais avant Rome, il y a eu l'exil de la Corse. C'est une femme qui voit son mari mourir à l'âge de 38 ans, elle en a 35, elle a 8 enfants. Ses oncles, justement, meurent eux aussi à leur tour. Il n'y a pas beaucoup d'argent. À un moment donné, la situation corse fait que Paoli provoque une vendetta qui chasse ces familles qui ont, 20 ans plus tôt, pris fait et cause pour les Français. Donc, à un moment donné, elle est obligée de quitter précipitamment la Corse pour aller à Marseille, à Toulon. Enfin, dans l'ordre, c'est Toulon, Marseille et Antibes. Elle a ce déracinement. Et pour elle, elle n'envisageait pas un autre avenir, un autre horizon que celui de la Corse. Elle y était bien. Elle imaginait sa famille grandir en Corse. Le destin d'un de ses fils va changer la donne. Elle partira. Elle ira à Paris. Et là, elle connaîtra la gloire avec son fils. Mais elle n'est pas préparée à tout cela. Et... C'est une femme qui a les pieds sur terre, parce que le premier exil qu'elle est obligée de subir après cette vendetta en Corse, provoquée par Paoli, eh bien, l'amène à voir la réalité de la vie. Elle part avec ses enfants sous le bras, elle s'installe à Toulon, qui est une ville où il y a l'insurrection, où le gouvernement n'a plus d'administration, la vérité de la veille n'est plus la vérité du lendemain. Elle a un passeport, qui est le passeport numéro 576, où on dit qu'elle est couturière, où on la vieillit, ce qui la met dans une rage folle, parce que son fils Lucien, qui a obtenu le passeport, lui fait mettre... elle a 56 ans, alors qu'elle en a 10 de moins. Elle est couturière. On vit de rations. Donc, elle sait exactement ce qu'est la vie. Et plus tard, quand elle deviendra madame mère, c'est-à-dire la mère de l'empereur, que l'argent sera là, qu'elle devra suivre un train de vie important, elle sera toujours la première à faire des économies, à faire attention, détestant les... Elle n'est pas impressionnée par les ors de l'Empire et mettant de l'argent de côté. Et heureusement, parce qu'après l'exil définitif, c'est-à-dire après 1815, eh bien, la famille aura besoin de Laetitia. Ils auront besoin de leur mère. Et elle sera là.
Revenons sur, les débuts et l'affaire avec Paoli. C'est par la première insurrection de Paoli que le vent de l'histoire souffle sur la famille. Le premier contact initial, si je ne...
Alors, la Corse, en 1768, est encore génoise. La Corse est génoise et Paoli est en Corse et organise le contre-pouvoir. C'est-à-dire que cette famille Bonaparte, avec Carlo et Laetitia, sont aux côtés de Paoli. C'est le babou, c'est le père de la nation corse. Et, comment dire, Carlo, le mari, écrit les discours de Paoli. Donc ils sont extrêmement proches et en combat ensemble, à Corté, en combat, qui ? Ben, les Génois, puisque la Corse est génoise. Et les Génois sont tout autour de l'île, ils sont dans les ports. Donc c'est pour ça que Paoli choisit Corté dans la montagne. Et un an après, en 68, en mai 68, Gênes vend secrètement la Corse à la France. Cet acte est officialisé le 15 août 1768. Et là, l'ennemi, c'est plus le Génois, ça devient le Français. Et on se bat contre la France, jusqu'à la bataille de Puente Novo, qui est perdue par les Corses, qui est gagnée par les Français. Et là, il faut se ranger et voir la réalité en face. Et la réalité en face, c'est que les Français sont là et il faut prendre le parti de la France. Paoli, lui, refuse, s'en va, fait son tour d'Europe et va s'installer pendant 20 ans en Grande-Bretagne. Mais les autres familles, elles, eh bien, elles restent là et elles travaillent avec les Français. Et comme Carlo parle français, eh bien, il devient un pion important dans la stratégie française, et notamment aux yeux de Marbeuf, qui voit en lui un relais important pour pénétrer cette société corse.
Ensuite, donc, les choses se corsent, ils arrivent effectivement à Toulon. À ce moment-là, où en est le fils, l'un des fils ?
Napoléon ?
Oui.
20 ans après, Paoli revient en Corse.
Oui, c'est ce que vous évoquiez.
Voilà, il revient en Corse. 20 ans après, il revient grâce à la Révolution. C'est-à-dire, c'est Mirabeau qui lui dit de revenir. C'est Lafayette qui l'accueille à Paris. Et c'est Louis XVI qui le nomme directeur des affaires corses. Donc, il revient en héros. Et Napoléon, d'ailleurs, qui, à ce moment-là, a une vingtaine d'années, lui écrit une lettre dithyrambique, parce que c'est le héros corse. Et à ce moment-là, un des frères de Napoléon, Lucien, qui se retrouve sur le continent, qui est à Toulon, commence à dire dans les clubs jacobins que Paoli, finalement, fait le lit des Anglais et veut vendre la Corse à l'Angleterre. Tout ça arrive aux oreilles de la Convention et la Convention part en guerre contre Paoli. Et c'est à ce moment-là que Paoli déclare l'indépendance de la Corse. Et déclarant l'indépendance de la Corse, il commence sa vendetta, ce que je disais tout à l'heure. Et une des premières familles qui doit partir, c'est la famille Bonaparte. À ce moment-là, Napoléon envoie un mot à sa mère. Il lui envoie ce petit mot tout simple en disant « Mère, préparez-vous, ce pays n'est plus pour nous ». Et il l'envoie à un de ses lieutenants, un jeune lieutenant qui s'appelle Costa de Bastelica, pour l'emmener, pour la sortir, parce que la maison va être brûlée, Casa Malherbe va être brûlée.
À s'enfuir in extremis.
In extremis, par un souterrain. Enfin, c'est rocambolesque, c'est un film.
Ah bon, oui, on se croirait dans de l'accent d'Humain.
Oui, oui, c'est absolument. C'est du Monte Cristo. Et là, elle s'en va avec ses filles, et c'est comme ça qu'elles arrivent à Toulon. Ce premier exil de la famille va durer 4 ans. Elle va revenir en 1797. Me semble-t-il. Et 2 ans après, elle va revenir donc en Corse. Elle va s'occuper à nouveau de sa maison, Casa Malherbe. Et et elle va tomber malade, elle va être atteinte de malaria. Et c'est à ce moment-là que ses enfants lui demandent de venir à Paris, pour être soignée à Paris. Et on arrive là, on arrive aux 18 Brumaire. C'est-à-dire, à l'époque, c'est le 9 novembre 1799. Et c'est l'épisode où Napoléon va devenir consul, un des trois consuls, avec Ducos et Seyès.
Avec l'aide déterminante de son frère Lucien.
Et l'aide déterminante de Lucien, qui sera remercié en devenant ministre de l'Intérieur. L'idylle entre les deux hommes ne va pas durer longtemps, parce que Napoléon, qui veut régenter toute la famille. Le chef de famille familial, on va dire, le chef vraiment de la famille au sens maternel du terme, c'est elle, c'est Laetitia. Mais le chef de famille politique est bien évidemment devenu Napoléon, c'est Napoléon. Et Napoléon va vouloir régir l'avenir et la vie de tous ses frères et de toutes ses sœurs. Deux exemples. Jérôme, il a 20 ans, il part aux États-Unis, il tombe amoureux d'une fille. Patterson, une jeune fille qui a 20 ans, qui est magnifique, de très bonne famille, il se marie par amour. Il va rentrer en France et il demande bien sûr l'autorisation à son frère, qui la lui refuse parce qu'il n'a pas demandé l'autorisation au préalable de se marier. Et il lui dit, maintenant tu divorces parce que ton mariage n'est pas bon, n'est pas valable en France. Donc je ne veux pas la voir. Et elle qui a fait le voyage s'arrête à Amsterdam et cette demoiselle Patterson partira aux États-Unis. Et ils ne se reverront plus. Pareil pour Lucien. Lucien se marie avec une jeune fille qui s'appelle Christine Boyer. Son vrai nom, Catherine Boyer, parce que Lucien a l'habitude de changer tous les prénoms.
Lui aussi.
Et elle s'appelle Christine Boyer. C'est une fille d'aubergiste. Bien sûr, cette fille d'aubergiste, Napoléon n'en veut pas. Et va lui demander de divorcer. Lucien refusera une première fois. Cette Christine Boyer va décéder. Lucien va tomber amoureux d'une autre femme, Alexandrine de Bléchamp. Et cette jeune fille, pareil, c'est une merveilleuse. Napoléon n'en veut pas. Et c'est là que le divorce va vraiment avoir lieu entre les deux frères. C'est que Lucien va décider effectivement de quitter Paris, de quitter la France et de s'exiler en Italie. Et cet exil va durer assez longtemps, hein. Il va durer jusqu'aux 100 jours, c'est-à-dire jusqu'à quasiment la fin. Ils ne se seront pas vus pendant près de 20 ans, les deux frères, à cause de ça. Et d'ailleurs, Laetitia, en prenant ombrage, Laetitia qui dit régulièrement qu'elle prend toujours le parti de l'enfant qui souffre le plus, prendra parti pour Lucien. Et lorsque Napoléon voudra avoir la présence de sa mère auprès de lui pour le sacre, le 2 décembre 1804, eh bien celle-ci, qui se trouve auprès de Lucien en Italie, mettra 17 jours pour arriver en disant « Oui, oui, j'arrive pour ton sacre ». Et mettra 17 jours, elle arrivera, le sacre a lieu le 2 décembre, elle arrivera, si ma mémoire est bonne, le 19 décembre à Paris. Et foudrage, meurtri par cette situation, Napoléon demandera à David, dans son fameux tableau, de la représenter, de représenter sa mère au centre du tableau, dans la loge principale, pour dire à l'histoire, elle était là. La réalité veut qu'elle n'y ait pas été.
Et de surcroît, elle semblait plutôt réservée sur cette politique.
Oui, alors ça, c'est un des régimes. Ça, effectivement, c'est un des points communs, un des rares, sinon le seul, qu'elle avait avec Joséphine. Elle détestait, on le sait, Joséphine, et pour des tas de raisons, parce qu'elle estimait qu'elle ridiculisait son fils, elle le trompait. Et elle n'admettait pas ça. Et pour d'autres raisons également, c'est que Joséphine se moquait beaucoup de Laetitia, elle se moquait de son accent, elle se moquait du fait que elle ne voulait pas jouer le jeu de la cour. Donc elle avait une timidité, une réserve qui était le contraire de ce que pouvait représenter Joséphine. Laetitia disait de Joséphine, cette gourgandine de salon passe ses maîtres dans l'art de la séduction. Et c'est vrai, elles étaient le contraire, toutes les deux. Mais les deux avaient ce point commun sur ce destin de Napoléon. Elles estimaient qu'il n'avait pas besoin de devenir empereur et il n'avait pas besoin de se faire sacrer empereur. Donc elles partageaient ce point. C'est le seul point commun qu'elles avaient.
Les femmes restent souvent de bon sens quand même, non ?
Ah oui, c'est une... Laetitia, en tout cas, en avait beaucoup. Et Laetitia était lucide. Elle était lucide sur... sur la vie, sur ses enfants, sur les valeurs que pouvaient avoir ses enfants, sur les déceptions qu'elle a eues de certains qui n'ont pas toujours été aux côtés de son fils, Napoléon, lorsque son fils avait besoin de lui. Je prends un exemple, c'est quand il part en exil sur l'île d'Elbe en 1814. Eh bien, il n'y a que trois femmes qui vont le voir. Il y a elle, la mère, bien sûr. Il y a Pauline, qui est la plus infidèle des femmes, dès lors qu'on parle d'hommes. Mais c'est la plus fidèle vis-à-vis de son frère, Napoléon. Elle sait qu'elle lui doit tout. Elle sera là jusqu'au bout. Et puis la troisième femme, c'est Marie Walewska. Marie Walewska, le grand amour polonais de Napoléon, qui vient sur l'île d'Elbe, trois jours, je crois. Et elle vient avec son fils, Alexandre, qui est le fils de Napoléon, qui est le fils naturel de Napoléon. Et il a 4 ans à l'époque quand il vient avec sa mère passer ce moment sur l'île d'Elbe. Il n'y a que ces trois femmes. Et ces trois femmes qui démontrent leur amour pour Napoléon. Les autres ont disparu. Les autres sont aux affaires. Les autres lui ont... pas tourner le dos, mais presque, ont déjà des alliances avec des Autrichiens. Il espère, lui, la présence d'une quatrième femme qui ne viendra jamais, c'est Marie-Louise. Marie-Louise d'Autriche. Et il l'attendra, il l'espérera, elle ne viendra jamais. Elle est déjà dans les bras de son amant.
Elle ne manque pas, on a parlé d'un certain bon sens, peut-être même de sens politique, finalement, non ?
Oui, alors est-ce que la politique, c'est du bon sens ? Je ne sais pas, mais...
Oui, mais c'est pour ça, mais au-delà du bon sens, une forme de sens politique.
Elle a un sens de la vie, elle a un sens du devoir, elle a des valeurs.
Oui, on sent qu'elle est peut-être moins saisie par les passions idéologiques, mais...
Oui, mais c'est le cas de beaucoup de femmes. C'est ce qui est fabuleux, d'ailleurs, c'est que ces femmes ont quelque chose de plus que l'homme. Elles ont ce recul sur la vie qui fait qu'elles peuvent être prises de passion, bien sûr. Mais une femme politique ne fait pas la politique de la même façon qu'un homme. C'est différent.
C'est pour ça qu'en le voyant monter si haut, toujours plus haut, saisi par une forme d'hubris incroyable, elle craignait déjà que la chute soit d'autant plus...
Elle savait que la chute serait terrible. Elle savait que la chute serait terrible. Il y a une image que je prends un peu, tirée par les cheveux, bien sûr, dans le roman. C'est quand elle va à Rome, dans l'exil, parce qu'en 1815, le premier exil, elle espère aller à Gênes. Mais Ferdinand III lui dit « Non, passez votre route, madame, je veux pas ». Et donc, elle arrive à Rome, grâce justement à l'action... De son demi-frère, le cardinal Fesch, qui est très proche du Vatican. Et elle achète cet hôtel particulier, l'hôtel Rinuccini, qui est, pour ceux qui connaissent Rome, à l'angle du Corso, de cette rue du Corso, et à l'angle de la place de Venise, là où il y a aujourd'hui le grand monument dédié à Victor Emmanuel. Et cet emplacement, cette place de Venise, elle est à quoi ? 300, 400 mètres de la roche tarpéienne. Elle est à 300 mètres du Capitole. Donc elle sait exactement ce qu'est la vie. C'est que quand on monte, on sait qu'à un moment donné, on est proche du précipice. Et c'est pour ça qu'elle va avoir cette attitude-là pendant tout l'Empire, économiser, prendre du recul. Elle le dit d'ailleurs à ses interlocuteurs. Vous savez, quand vous n'avez plus les bagues à votre doigt, il vous reste les doigts. Et elle est donc cette sagesse qui fait qu'à un moment donné, elle se battra jusqu'au bout pour adoucir le sort de son fils Napoléon. Jusqu'au bout, elle aidera ses enfants, quels qu'ils soient. Jusqu'au bout, elle essaiera de récupérer les cendres, de faire revenir les cendres de son fils. C'est la femme, la mère extrêmement fidèle. Alors je sais qu'il y a eu aussi des points d'interrogation quand on parle de fidélité. Il y a eu l'épisode Marbeuf Là-dessus, il y a des partis pris. Moi, je regarde l'histoire, je lis tous les historiens, et pour l'instant, aucune preuve n'est apportée devant cette possible infidélité qu'elle aurait eue envers son mari et des faveurs qu'elle aurait accordées à Marbeuf. Ces supputations. On sait pertinemment que Napoléon s'en est ému et que Napoléon lui-même s'était confié à Monge en disant « Mais est-ce que mon père est vraiment mon père ? Est-ce que c'était pas un combattant ? Moi, je suis un combattant. Et regardez, le gouverneur Marbeuf, lui, est un combattant. » On sait que ça, c'est faux, tout simplement parce que le couple Bonaparte rencontre Marbeuf en 1771, et Napoléon est né. Il est né depuis un an et demi à peu près. Alors d'autres disent, mais c'est peut-être les autres enfants, peut-être Louis, puisqu'en plus Marbeuf s'appelait Louis et qu'il était le parrain de Louis. Point d'interrogation là aussi. Tant que l'histoire n'a pas apporté ses preuves, je crois qu'il ne faut pas la tordre dans tous les sens. Ce que l'on sait, c'est que d'après les historiens, on a l'ADN de Napoléon. On a l'ADN de Napoléon III, ce n'est pas le même ADN. Donc il y a deux hypothèses. Ou Napoléon III n'est pas le fils de Louis, c'est-à-dire le frère de Napoléon, et c'est Hortense qui aurait fauté, mais on sait qu'Hortense avait des aventures avec de Flahaut, et de cette union d'ailleurs, de ces aventures, est né un enfant, qui est le duc de Morny. Ou alors c'est vraiment le fils de Louis, et c'est Louis qui n'est plus le frère de Napoléon. Vous voyez, alors ça nous entraîne dans des schémas totalement hypothétiques. J'ai beau être romancier, je n'ai pas voulu m'amuser avec l'histoire.
Oui, et en matière de fidélité, en tout cas, l'infidélité sans faille, éternelle, jusqu'au bout, et dans l'abnégation d'une façon incroyable, pour ses enfants, quels qu'ils soient, et sans elle se poser ce genre de questions.
Exactement. C'est pour ça que j'ai pris, moi, dans ce livre, le parti pris de cette femme qui a des valeurs, qui est au risque d'être austère, mais qui a des valeurs et qui les porte et qui les habite jusqu'au bout.
Sujet de valeurs, d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a surpris, parce que j'ignorais, vous la décrivez comme une femme extrêmement pieuse, du début jusqu'à la fin, d'ailleurs, se plaçant sous la protection de la Sainte Vierge, je ne sais plus si elle récite le chapelet ou pas, mais enfin... l'ambiance est celle-là, ça tranche un petit peu avec l'ambiance familiale. Avec,
oui,
avec
absolument.
Avec Lucien au premier chef, jacobin quand même plutôt.
Je pense qu'elle est, elle est élevée comme ça. C'est de tradition. Et puis je pense que la proximité avec son demi-frère, le cardinal Fesch, qui est plus jeune qu'elle, qui a 14 ans de moins, donc qui est le fils de sa mère, Angèle, Pietrasanta, qui, à la mort de son mari, le Bonaparte, Giovanni Bonaparte, va épouser, en deuxième noce, donc, un officier suisse, Fesch, protestant, alors que la mère est catholique, ce qui, à l'époque, est déjà assez rare et assez audacieux. Et va naître de cette union cet enfant, 14 ans de moins que Laetitia, et les deux enfants, les deux personnes vont s'aimer d'un amour très très fort, très fraternel, jusqu'au bout. Et le cardinal Fesch va veiller sur sa sœur Laetitia jusqu'au bout. Il mourra 4 ans après elle. Il a 14 ans de moins, il mourra 4 ans après elle, puisqu'elle meurt en 1836 à Rome, et lui mourra 4 ans après dans la même ville. Ce sont deux êtres qui se sont suivis jusqu'au bout, et surtout, en plus, dans les 20 dernières années de la vie de Laetitia, où il est à ses côtés en permanence, où tous les jours il vient partager un déjeuner, un goûter, un thé, ou lui parler. Il est le confident. Je pense qu'il a d'ailleurs contribué à écrire avec Rosa, sa dame de compagnie, beaucoup des mémoires que Laetitia nous a laissées. Voilà, c'est un être extrêmement bon et intéressant. Je trouve que l'histoire n'en parle pas beaucoup et que c'est un personnage magnifique parce que humain et puis très politique. C'est lui qui a le contact avec Picette, c'est lui qui a le contact avec, avec le Vatican et qui réussira à faire en sorte que la famille Bonaparte puisse habiter, habiter Rome.
Dans cette période d'exil romain, il y a quelques moments qui sont extrêmement touchants lorsque elle se rend compte petit à petit qu'on ne la laisse pas communiquer avec son fils, qu'on ne laissera pas aller le voir, qu'on ne lui donne pas de nouvelles. Elle est entièrement coupée. Et ce qui est touchant, c'est qu'elle se faisait probablement des illusions sur la hargne des adversaires de l'empereur en Europe et l'esprit revanchard qui était le leur.
Oui, parce qu'elle peut tout imaginer.
C'est une situation épouvantable.
Elle propose même, elle n'espère qu'une chose, c'est d'y aller. C'est d'aller à Sainte-Hélène. C'est de pouvoir rejoindre son fils. Parce qu'elle, alors c'est vrai que Hudson Law, le geôlier de Napoléon, ne devait pas être tendre. Maintenant, est-ce qu'il était aussi dur, tyrannique que Napoléon a bien voulu le laisser croire, je n'en suis pas sûr. En tout cas, je ne suis pas historien pour pouvoir vous apporter un éclairage là-dessus. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il y a un Anglais qui a essayé d'adoucir son sort et de lui éviter l'exil à Sainte-Hélène, c'est le Lord Holland. Lord Holland, qui est un francophile, qui est le chef du parti des Whigs, et qui essaie de le défendre, qui essaie de faire en sorte qu'on ne l'envoie pas comme ça à Sainte-Hélène. Bon, l'histoire veut qu'il n'y ait pas réussi. Mais je ne suis pas sûr que, voilà, que le sort de Napoléon n'ait pas été aussi un montage marketing, ou en tout cas de communicant génial qu'était Napoléon.
Toutefois, lorsqu'elle écrit aux différents dirigeants européens, elle obtient parfois... Si j'ai bien compris, aucune réponse, voire des réponses à peine polies.
Ah ben, et souvent, pas de réponse du tout.
Pas de réponse du tout.
Et souvent, on l'ignore. Elle en veut à la terre entière. Elle en veut aux Anglais, elle en veut aux Autrichiens. Elle apprend la mort de son petit-fils, le duc de Reichstein, le roi de Rome, par un courrier d'une froideur venant de Marie-Louise, qui laisse pantois. Elle est seule.
Mais c'est à ce moment-là, elle écrit comme mère, mais on a le sentiment aussi... qu'elle s'illusionnait ou s'imaginait faire partie quand même des familles royales européennes, peu ou prou, de cette société, et que dans cette société, on ne se traitait pas comme cela. Est-ce
oui,
qu'elle s'illusionnait, oui ou non ?
C'est possible. C'est possible qu'elle se soit illusionnée.
C'est un peu le contrepoint à ce que je disais tout à l'heure.
C'est possible qu'elle se soit illusionnée. Il y a une remarque qui me vient, et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur son rôle de mère, sur son rôle de politique, sur son rôle de clairvoyance et de bon sens. À un moment donné, lorsque elle se trouve avec son fils Napoléon sur l'île d'Elbe, et que ce 26 février 1815, il décide de repartir à la conquête de son empire, il organise un grand bal pour tromper la vigilance sans doute de ses geôliers. Et au moment, sont présents bien sûr les invités de Lille, et puis Pauline et Laetitia. Et à un moment donné, Napoléon demande à sa mère de s'isoler avec lui, et il lui avoue qu'il va partir. Et il lui demande son avis, de façon polie de lui dire « je m'en vais ». Et là, elle a cette réponse, elle lui dit « écoutez, mon fils, permettez que je m'efforce de ne pas être votre mère. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle prend sur elle le fait de dire « mais enfin, c'est mon fils qui s'en va encore au combat. » Et elle lui dit « permettez que je prenne sur moi de ne pas être votre mère. Et, mais vous n'êtes pas fait pour mourir par le poison. » Ou de ces hommes qui vont rester seuls sur une île. Vous êtes indigne de cette solitude. Vous êtes de ceux qui meurent les armes à la main. Et elle lui donne comme ça son feu vert. Donc on voit bien quand même qu'elle est en permanence partagée entre cette position et cette émotion très maternelle qui est de couver ses enfants, de les aider et en même temps de leur permettre d'accomplir leur destin. Elle ne s'est jamais opposée au destin de ses enfants. Elle n'a jamais voulu les guider ou les précipiter dans une voie. Elle a toujours été extrêmement respectueuse de ça, aidant les uns quand il fallait les aider, les rassurant quand il fallait les rassurer. Vous savez, quand au moment de la terreur, Napoléon n'est pas encore le Napoléon qu'on connaîtra plus tard. Il a des doutes, il ne sait pas. Pendant la terreur, ce qui se fait le matin ne se fait plus le soir et n'est plus admissible le surlendemain. Donc on est dans un mouvement qui change en permanence. Et il se confie à sa mère. Il dit je ne sais plus quoi faire. Et elle lui dit, ce que je sais en tout cas, c'est que la Corse est un rocher stérile, il n'y a rien à y faire. En revanche, la France est peuplée, elle est riche. Certes, elle brûle, mais elle brûle d'un noble embrasement qui mérite que l'on prenne le risque de s'y griller. Vous voyez, donc, elle va dans le sens de son fils Napoléon, qu'elle connaît doué pour les armes et l'action.
En tout cas, dans sa réponse, avant les 100 jours, elle ne manque pas de lucidité. Car elle évoque déjà une fin tragique. Dans la réponse, c'est déjà contenu cette fin tragique.
Oui. Oui, je pense qu'elle sait de toute façon que ça se terminera aussi comme ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle pense qu'il y aura un exil définitif ou à terme la mort? Mais voilà, elle a cette lucidité-là.
Lorsque, dans ces derniers jours... Quels sont les sentiments qui la traversent? Sentiments d'abord à l'égard de ses enfants, sentiments de mère, d'impératrice déchue. Sœur Grèce concentre sur quels aspects?
Je pense qu'elle est animée d'une grande solitude. Je pense qu'elle sent que tout l'abandonne. Oui, c'est ce sentiment de déracinement qu'elle vit quotidiennement depuis qu'elle a dû quitter pour la première fois la Corse. Elle dit cette phrase à un moment donné, ceux qui ne connaissent pas l'exil ne peuvent pas connaître l'horrible supplice de l'éloignement. On a l'impression, quand on est en exil, qu'on vous arrache tous vos membres, qu'on vous arrache le cœur. Et elle est dans cet état-là. C'est une dame qui est malade, elle est tombée, elle se remet mal d'une chute, elle est impotente, elle sent cette solitude. Et je pense qu'elle doit imaginer, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai fait, je pense qu'elle doit imaginer le soleil et la douceur de sa Corse natale.
A-t-elle aussi des considérations plus politiques sur la situation en France?
Je ne le pense pas. En tout cas, moi, je n'ai pas voulu m'apesantir là-dessus pour faire d'elle une sorte de chroniqueuse ou d'observatrice de la politique. Non, je crois qu'elle est retirée. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'imagine. Peut-être que les historiens, eux, peuvent nous éclairer là-dessus, mais moi, j'ai voulu qu'elle ait une fin à la fois paisible, et malheureusement, ça a été le cas un peu qui passe un peu inaperçu, parce que quand elle meurt en Italie, on veut surtout pas... faire ressurgir les vieux démons napoléoniens et de l'Empire. Donc on ne tue pas la nouvelle, mais voilà, on fait en sorte que ça ne déclenche rien d'autre que un peu de compassion.
Par-delà les siècles, c'est de la compassion que vous ressentez avant tout pour cette femme?
Ah, j'ai une vraie admiration. Moi, j'aime ces destins de femmes qui sont égratignées par la vie et qui, malgré les combats, les tempêtes qu'elles peuvent traverser, se comportent comme, comme une proue de bateau au milieu du flot des eaux, et je trouve ça admirable.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour conclure, je donne les références du livre. Donc Laetitia Bonaparte, La mère de toutes les douleurs, Patrick de Carolis, bien entendu, aux éditions Plon, disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup pour cette évocation.
Merci à vous.